Vous écoutez Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde, il est 19h. Dans un instant, le foot prend les devants avec Europe 1 Sport, mais tout de suite c'est le journal avec Hélène Zeleny. Bonsoir.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous. 60% des TGV et des intercités annulés. La grève à la SNCF se poursuit jusqu'à dimanche. Nous serons gare Montparnasse dès le début de ce journal. Des péages plus chers dès le mois de février, hausse moyenne de près de 5%. Dans ce journal, Bruxelles valide la fin des vols intérieurs courts, le patrimoine des ministres dévoilés. Et puis au Mondial, la Corée du Sud qui arrache sa qualification pour les huitièmes. C'est fini pour l'Uruguay et le Ghana. Les Bleus, eux, ont les yeux tournés vers leur match de dimanche contre la Pologne. Bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir Hélène Zeleny, bonsoir à tous.
La tendance météo.
Eh bien, le sud-est qui s'annonce pluvieux ce week-end. Partout ailleurs, le temps qui est bien gris aussi, mais plus sec. La neige qui va tomber abondamment dès ce soir du Massif central aux Cévennes ardéchoises.
À tout à l'heure. Ce n'est vraiment pas le bon week-end pour prendre le train. Comme prévu, la grève des contrôleurs de la SNCF, très suivie, entraîne de nombreuses annulations. 6 TGV et intercités sur 10 restent à quai jusqu'à dimanche et l'axe atlantique est particulièrement touché avec seulement un TGV sur 4. Idem pour les Ouigo. Thibaut Hu, vous êtes gare Montparnasse, pas facile pour les voyageurs de rester serein.
Oui, tout à fait. Hein. Devant le tableau d'affichage de la gare, les sourcils sont froncés, les voyageurs s'agacent. Clémentine devait partir ce matin, son train a été annulé, alors la jeune femme s'impatiente.
J'ai eu une journée de stress énorme, je vais rentrer plus tard chez moi, que je ne suis pas sûre d'avoir un bus pour rentrer chez moi, que du coup j'ai dû m'organiser autrement, payer le billet de train plus cher. Je l'ai payé 111€, juste le retour, alors que de base j'avais payé 110€ l'aller-retour.
D'autres n'ont pas trouvé de solution. Nicolas ne peut pas rejoindre Dax en train, alors il a prévu de finir son trajet en voiture.
C'est mon père qui va faire l'aller-retour Dax-Bordeaux pour venir me chercher. Une heure et demie de voiture aller, une heure et demie de retour, donc on va dire 3 heures de voiture.
Et pour ceux qui sont arrivés à destination sans problème, comme Baptiste, ils sont toujours dans l'incertitude de leur retour dimanche.
On croise les doigts quand j'entends les histoires de mes amis qui se sont mal passés avec leur billet de train. Alors, on sait qu'à tout moment, même là ce soir, ça peut être supprimable, les trains.
Voilà, de très nombreuses perturbations qui vont se poursuivre. Seulement un train sur deux circule ce week-end ici à la gare Montparnasse.
Thibaut Hu en direct de cette gare Montparnasse pour Europe 1. Une reprise progressive est prévue lundi avec 3 trains sur 4 sur tous les axes TGV. Si vous êtes automobiliste, sachez que les autoroutes vont vous coûter plus cher l'an prochain. Au 1er février, les prix des péages grimperont de 4,75%. En moyenne, Margot Faudéré, et c'est bien une moyenne.
Oui, car selon les sociétés d'autoroutes, les hausses iront de 4,5% à 5,07%. C'est en dessous de l'inflation, qui est à un peu plus de 6% en ce moment. Et cette hausse des tarifs, l'une des sociétés jointes par Europe 1 la justifie par la hausse du coût des investissements qui sont nécessaires pour entretenir le réseau. Et tout cela en raison de l'augmentation du prix des matériaux et de l'énergie. En tout cas, les acteurs du secteur et le ministère des Transports ont longtemps discuté pour trouver un compromis et l'augmentation aurait pu être bien plus élevée. Certains évoquaient 8% de hausse. Les discussions ont aussi abouti à des mesures dites pouvoir d'achat. Par exemple, les 3 principaux concessionnaires que sont Vinci, APRR et Sanef accorderont une réduction de 40% sur les péages, des 10 allers-retours par mois sur le même trajet. Une réduction qui ne s'appliquera qu'aux abonnés télépéages et qui vise à aider tous ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'emprunter l'autoroute pour se déplacer.
Margot Faudéré, c'est voté, l'Assemblée adopte le texte qui doit mieux protéger les propriétaires contre les loyers impayés. Les sanctions encourues par les squatteurs seront triplées pour atteindre jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. On a parlé retraite cet après-midi à Matignon, réunion entre Elisabeth Borne et une vingtaine de ministres. La première ministre qui présentera la réforme le 15 décembre prochain a déjà confirmé le report progressif de 62 à 65 ans d'ici 2031. Premier concerné, le millésime 1961. Pour Olivier Dussopt, ministre du Travail, cette réforme, qui était dans le programme d'Emmanuel Macron, doit permettre avant tout d'améliorer le système.
Sur la question de l'âge, puisque c'est la question centrale souvent dans une réforme des retraites, c'est rappeler que le président de la République a fait campagne de manière totalement transparente, en indiquant que pour lui, ce qui lui paraissait le plus probable, le plus utile, le plus efficace, était un relèvement progressif de l'âge de départ à la retraite, d'abord à 64 ans, puis à 65 ans d'ici 2031. Et si le régime est légèrement excédentaire en 2021 et en 2022, Il est déficitaire dès 2023 à hauteur de 1,8 milliard. Et ensuite, le déficit se creuse à hauteur de 12,5 milliards en 2027, puis presque 15 milliards en 2030. Si nous ne faisons rien, le niveau de vie relatif des retraités va baisser. Et donc, cette réforme a un double objectif. Améliorer le système de retraite, le rendre plus juste, plus protecteur, et en même temps garantir son équilibre et sa durabilité. Si nous nous contentions d'équilibrer le système sans l'améliorer, ça serait injuste. Et si nous contentions de l'améliorer sans l'équilibrer, ça serait irresponsable. Donc nous allons faire les deux.
Le ministre du Travail, interrogé par Alexis de La Fontaine, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, promet déjà de faire reculer le gouvernement dans l'hémicycle ou dans la rue. Son mouvement participera à la manifestation du 21 janvier, mais d'autres mobilisations sont possibles d'ici là. Y aura-t-il de l'électricité à Noël? Vous le savez, le gouvernement n'exclut pas des délestages, on en a beaucoup parlé. D'où l'intérêt de la nouvelle liaison électrique inaugurée aujourd'hui entre la France et la Belgique à Tournai, côté belge. Projet qui va permettre de doubler la capacité d'échange d'électricité sur les lignes à très haute tension frontalière et donc de limiter les risques de coupures cet hiver. Écoutez Xavier Péchazic, il est président de RTE.
Les coupures ne sont pas une fatalité. Nous allons prévenir les Français 3 jours avant. Les Français, les entreprises et les collectivités locales ont 3 jours pour s'organiser et faire le jour J les bons éco-gestes. Et si tout le monde fait ces bons éco-gestes le jour J, il n'y aura pas de coupure. Nous nous organisons pour les éviter. Les entreprises, les collectivités locales doivent nous aider. Mais nous aussi, nous mettons en service des nouvelles interconnexions le plus vite possible pour importer le plus d'électricité possible. C'est de la capacité d'importation supplémentaire. Hein, et ça fait baisser le risque de jour éco-watt rouge. Je rappelle, un jour éco-watt rouge, c'est on programme des coupures, sauf si les Français se mobilisent, les entreprises, les collectivités locales, pour faire des éco-gestes.
Le président de RTE, le gestionnaire du réseau électrique au micro européen de Maximilien Carlier. Près de 200 migrants qui se disent mineurs ont installé leur tente devant le Conseil d'État dans le centre de Paris. Ils demandent un hébergement d'urgence. La loi climat veut nous faire préférer le train. Aujourd'hui, Bruxelles a donné son feu vert à la suppression des vols intérieurs courts. Précisément quand l'avion peut être remplacé par un trajet en train de moins de 2h30, Barthélémy Philippe.
Oui, on rappelle, l'objectif, c'est moins de trafic aérien pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Mais l'interdiction des vols courts a été contestée. L'Union des aéroports français invoquait une discrimination entre transporteurs. Après l'examen du dossier, Bruxelles a finalement donné son feu vert à la loi française, avec tout de même une clause de revoyure dans 3 ans et quelques ajustements. La France doit s'assurer que les alternatives en train seront proposées avec des fréquences et des horaires satisfaisants. Par ailleurs, les correspondances aériennes vers les aéroports internationaux doivent rester autorisées le temps qu'une offre ferroviaire suffisante soit développée vers les gares aéroportuaires. En l'état actuel, les liaisons aériennes entre Paris-Charles de Gaulle et les villes de Bordeaux, Nantes, Rennes et Lyon ne seront pas interdites faute d'alternatives. En revanche, Bruxelles valide la suppression des liaisons entre Paris-Orly et Bordeaux, Nantes et Lyon que la France avait suspendues dès 2021. Le ministre des Transports Clément Beaune a salué la décision de Bruxelles. Selon lui, elle va permettre d'enclencher de nouvelles étapes dans l'interdiction des vols courts en cas d'alternatives ferroviaires.
Barthélémy Philippe, à la RATP, le dialogue social ne commence pas très bien ce matin au moment où le nouveau PDG Jean Castex recevait les syndicats. Les policiers sont intervenus pour disperser des manifestants devant le siège parisien de la régie. Il est 19h08 sur Europe 1, une pause et dans un instant on vous dira ce que possèdent les ministres. Leurs déclarations de patrimoine viennent d'être publiées. A tout de suite.
Europe 1, le journal. Hélène Zélani.
Vous voulez savoir ce que possède chaque ministre? Immobilier, assurance, voiture ou bijoux? Ça tombe bien, aujourd'hui la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie les déclarations de patrimoine des 43 membres du gouvernement. Arthur Delaborde, vous les avez consultés. Quel est le ministre qui détient le plus?
Eh bien, c'est Franck Riester, le ministre chargé des relations avec le Parlement, a accumulé un patrimoine brut de plus de 10 millions d'euros. Des actifs tirés principalement d'un groupe fondé par son grand-père dont il a pris la tête et qui détient de nombreuses concessions automobiles. Plusieurs autres membres du gouvernement sont millionnaires. C'est le cas d'Elisabeth Borne qui déclare un montant total d'1 670 000 euros. Le patrimoine de la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher est encore plus conséquent, 2 680 000 euros. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, déclare de son côté 4,5 millions d'euros, un patrimoine principalement immobilier, mais aussi de nombreux biens mobiliers de valeur, comme une Rolex et deux motos Harley-Davidson. À 33 ans, le ministre du Budget, Gabriel Attal, détient lui des actifs financiers évalués à près d'1,6 million d'euros, patrimoine bien plus conséquent que celui de son collègue de Bercy, Bruno Le Maire. Le total des biens et placements du ministre de l'Économie s'élève à 295 000 euros.
Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron termine sa visite aux États-Unis par un passage à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où il est attendu d'ici une demi-heure pour parler francophonie. Le président doit notamment annoncer le lancement du fonds French for All, français pour tous. Il s'agit de soutenir l'apprentissage du français de la maternelle à l'université. Je vous rappelle que notre vendredi thématique est consacrée au rapport entre la France et les États-Unis. Vous pouvez retrouver tous les reportages de la rédaction sur notre site europe1.fr. C'est parti pour la 36e édition du Téléthon, le grand rendez-vous de la lutte contre les maladies génétiques, avec des animations dans plus de 13 000 communes. Les organisateurs espèrent récolter au moins autant que les 86 millions de l'an dernier. Un seul numéro pour les dons, comme d'habitude, le 36-37. On passe au football. Premier de son groupe, le Portugal de Ronaldo, déjà qualifié, est battu 2-1 par la Corée du Sud, qui arrache sa qualification. En revanche, c'est fini pour l'Uruguay, malgré sa victoire sur le Ghana, 2-0. Les Bleus, ils se sont entraînés cet après-midi en vue de leur rencontre des huitièmes de finale dimanche face à la Pologne, mais sans le défenseur latéral Théo Hernandez. Touché à une cheville, il a été ménagé par précaution, mais demain, il s'entraînera avec ses coéquipiers. Des Bleus qui n'oublient pas que la dernière fois qu'ils se sont fait sortir d'une grosse compétition, c'était à l'Euro 2020 face à la Suisse. Le meneur de jeu Antoine Griezmann rappelle qu'il ne faut pas partir trop confiant.
Je pense qu'on était un peu trop relâché contre la Suisse quand on menait 3-1. On a cru que c'était plié. Mais voilà, dans les grandes compètes, tu te rends compte que c'est difficile. Il n'y a pas d'adversaire facile. Contre la Pologne, ça va être pareil, compliqué. Donc, bien se préparer. C'est pas jouer d'avance. Il faudra rien lâcher, que ce soit de la première à la dernière minute ou dernière seconde. Donc, on est tous focus là-dessus. Le coach croit beaucoup au groupe, qui donne presque, on va dire, tous les pouvoirs au groupe. Donc, c'est à nous de gérer ça, d'avoir une bonne mentalité sur et en dehors du terrain. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Et on a un groupe qui vit bien, un groupe qui se donne à fond aux entraînements, que ce soit les 11 qui commencent ou ceux qui sont amenés à rentrer. C'est parfait pour essayer d'aller le plus loin possible.
Antoine Griezmann avec Cyril de la Morinerie à suivre ce soir en direct dans Europe 1 Sport, Cameroun-Brésil et Serbie-Suisse. Coup d'envoi à 20h. Les marchés financiers avec vous, Didier Hameau de boursier.com. Une fin de semaine très calme à Paris.
Oui, Hélène, en léger repli, -0,17%, pas grand-chose. 6742 points sur le CAC 40, qui reste proche de ses meilleurs niveaux depuis 7 mois. Rassuré par la récente baisse des prix à la production en zone euro, un recul de 2,9% au mois d'octobre. À noter l'euro, justement, qui poursuit sa remontée. L'euro est à 1,05 face au dollar, au plus haut depuis le mois de juillet. Ailleurs, la bourse de Francfort gagne timidement 0,2%, Madrid perd 0,2% et donc le CAC 40 se replie de 0,17%, 6742 points.
Merci Didier Hameau. La météo pour terminer, Valérie Darmon, ce sera bien gris et neigeux dans le sud-est.
Effectivement, Hélène, une perturbation rentre sur le sud-est dès la fin de la nuit prochaine, arrosant copieusement les régions du pourtour méditerranéen vers le Massif central et le Limousin. Il va neiger aussi beaucoup demain matin au-dessus de 600 mètres sur le Massif central, l'après-midi vers 1002 et vers 700 à 800 mètres sur le nord de l'Auvergne en faible quantité. Il va neiger aussi en journée sur les Alpes du Sud au-delà de 1100 mètres. Et dans l'après-midi, les pluies vont s'intensifier sur le Languedoc et le sud de PACA, tournant par moments à l'orage. Ces précipitations qui vont s'étendre en soirée de PACA et du Languedoc-Roussillon au Poitou-Charentes en passant par l'Auvergne et le Limousin. C'est la région la plus agitée de ce samedi. En matinée, on a aussi de faibles chutes de neige qui sont possibles sur les collines normandes, mais la neige ne va pas tenir au sol. Et puis, vous n'êtes pas à l'abri d'une inondés sur la pointe du Cotentin et le nord de la Bretagne jusqu'en fin de journée sur l'Aquitaine et sur le reste du pays. C'est tout gris et c'est venteux. Les maximales vont aussi entre 2 à Amiens et 15 à Marseille.
Merci Valérie, excellente soirée à tous sur Europe 1. Dans un instant, Europe 1 Sport autour de Cédric Chasseur.